Bonsoir Christian.
Bonsoir Sabine, je vous entends pas bien malheureusement, mais bon.
Vous ne m'entendez pas bien ?
C'est très très loin pour moi dans mon téléphone, mais je vais faire des efforts.
D'accord, alors l'équipe est en train de vérifier ce qui se passe pendant qu'on commence, Christian.
Ce serait gentil.
Là il y a deux personnes qui s'en occupent et moi je commence avec vous en parlant le plus distinctement possible. Oui. En tout cas, moi je vous entends très bien.
Ah bah écoutez, c'est très très gentil, je suis très heureux de vous parler. Je vous appelle parce qu'en fait, j'ai l'impression que mon psy ne s'occupe pas bien de moi.
Oui.
Voilà, c'est... Ou alors c'est peut-être ce genre de thérapie qu'il me propose ou que j'ai choisi qui me convient pas en fait, puisque il s'agit d'une séance de type analytique.
Oui, donc c'est un psychanalyste.
C'est un psychanalyste, mais qui est psychiatre en même temps.
D'accord.
Voilà, et il me prend une demi-heure par semaine, parfois 25 minutes, enfin 30 minutes, très, très à la seconde près par semaine.
Mmh.
Et donc, il ne me dit strictement rien quand j'arrive, évidemment, il me laisse entamer le sujet.
Même pas une parole de bienvenue, quelque chose de chaleureux ?
Oui, il me dit bonjour et installez-vous, voilà.
Oui, et après, le minimum, quoi.
C'est quand même le minimum. Et après, il se cale derrière son bureau et puis il me regarde, voilà.
Bon.
Et alors donc, j'ai un petit carnet où j'ai tout un tas de choses écrites et où j'essaye de travailler sur chaque séance, évidemment, pour avancer un peu.
Ça fait combien de temps que vous le voyez ?
Mais ça fait à peu près 5-6 mois.
D'accord, donc commencez la thérapie.
En fait, je commence la thérapie avec lui. Ce n'est pas la première fois que je vais voir des thérapeutes, je dois dire. Mais là, j'avais envie de recommencer pour différentes raisons. Et j'ai l'impression, en fait, voilà, qu'il ne prend pas soin de moi, qu'il n'est ni par ses intonations, vous voyez, ni par ses écoutes, ni son écoute. J'ai l'impression que c'est assez froid. Voilà.
Ça, alors, vous pouvez pas vous tromper là-dessus, c'est forcément.
J'ai l'impression,
hein. Bah oui, c'est ça. Vous savez, il y a deux choses dans la thérapie, enfin deux choses au moins. La conduite de la cure, on l'appelle comme ça. Donc ça, c'est la manière dont le psychanalyste, le thérapeute va guider la parole de telle sorte qu'elle guérisse, hein, pour faire simple. Donc ça, ça se réfère à son savoir guider la cure.
Et à sa technique, oui, c'est ça.
C'est ça, exactement.
Oui.
Exactement. C'est à sa théorie, sa connaissance du psychisme et à sa technique. Et il y a autre chose qui est tout à fait fondamental, particulièrement dans la référence psychanalytique, qui est le lien qu'on appelle en psychanalyse le transfert. Peut-être on pourra en dire quelques mots, mais en tout cas,
oui, avec plaisir.
Le lien, c'est tout à fait fondamental. C'est ce qui fait que il y a deux personnes qui vont se mettre ensemble au travail, toutes les deux avec un désir sincère. Donc la personne qui vient, qui est le désir de travailler sur elle, la personne qui reçoit, donc le thérapeute, le désir d'être là, le désir d'aider, le désir de guérir. Et ça, c'est une qualité de présence qui, en principe, se sent immédiatement.
Voilà. Eh bien, je ne l'ai pas senti au départ. Je me suis dit, ça va peut-être venir, ou c'est peut-être moi qui n'aborde pas les choses, etc. Mais j'ai l'impression que c'est sa manière de travailler, c'est sa personnalité, probablement.
Oui, ben oui.
Et donc, je lui pose des questions, et il me renvoie toujours à des sortes de concepts. Vous voyez, ça reste pour moi. Par exemple, il ne me parle que de renoncement, d'impermanence. Il me parle de concepts, mais j'ai l'impression que ce sont que des mots pour moi. Ça passe pas dans mes émotions. Vous voyez.
Oui, ben oui. Vous avez un exemple, par exemple, si vous vous souvenez d'une séquence de dialogue avec lui?
Par exemple, je lui parle d'un deuil sentimental qui est très difficile à régler depuis 10 ans et
oui.
qui m'handicape beaucoup, je dois dire, et où je lui dis, voilà, il y a des quartiers de Paris où je peux plus aller, des musiques que je ne peux plus jouer ou plus écouter, des, vous voyez, des lieux comme la Méditerranée où je peux plus aller, des souvenirs que je suis obligé, d'enfouir comme des déchets nucléaires un peu, vous voyez.
Christian, vous semblez souffrir beaucoup, beaucoup de ce deuil.
Beaucoup, beaucoup.
Il a l'air encore d'être très à vif.
Il est très avif encore, malgré plusieurs sortes de thérapies que j'ai faites, et je m'en inquiète un peu parce que ça m'handicape, en fait. Donc, lui me parle que je ne m'adapte pas aux choses, pas au réel, et que j'ai peur, d'une certaine manière, de retrouver la liberté que j'aurai en lâchant tout ça.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Dans l'idée, probablement qu'il a raison, mais ça passe pas dans mes tripes, dans mon cœur, quoi.
C'est ça.
Mais peut-être qu'il a raison, probablement. Enfin, je sais pas. C'est plausible, hein. Mais j'ai l'impression que ça reste intellectuel, voyez, que ça reste.
Je comprends.
Voilà.
Donc vous pouvez pas vous en saisir.
Voilà. Alors il me dit, le fait de parler, on s'occupe de vous puisque vous me parlez, puisqu'on parle, mais ça ne me suffit pas, quoi. Enfin, c'est...
Oui.
Vous voyez, c'est... J'ai l'impression de voir un médecin à qui j'expose une maladie, mais il ne me donne pas de médicaments.
D'ailleurs, c'est un médecin. Parce que pour dire quelques mots des différents thérapeutes, il y a souvent des questions là-dessus. Peut-être que ça sera utile à ceux qui nous écoutent. Donc...
Je vous entends mal, Sabine, c'est terrible.
Ah, je vais essayer de parler le plus distinctement possible. Ça va mieux, là ?
Ouais, un petit peu mieux, oui,
d'accord.
C'est un peu mieux.
D'accord.
Ou alors c'est mon téléphone, mais j'entendais très bien votre assistante tout à l'heure.
D'accord.
Peu importe, je vous entends.
Voilà, donc on a plusieurs familles de thérapeutes. Donc il y a... Les psychiatres qui, à l'origine, sont des médecins, donc quand vous dites comme un médecin, c'est un médecin, qui sont formés au départ pour le diagnostic sur la maladie mentale ou les symptômes pathologiques, et qui sont formés à l'entretien qui accompagne ou qui permet la prescription. Certains ont la double formation et font aussi une thérapie, enfin sont formés ou pas d'ailleurs, puisqu'ils ont le droit d'exercer même si ce n'est pas le cas, mais à l'origine c'est un médecin. Et puis il y a les psychologues qui sont les spécialistes du comportement, donc qui vont essayer, quand il y a un comportement qui vous gêne, de ramener ce comportement à une norme qui paraîtra plus vivable ou plus adaptée à la société.
Oui.
Voilà. Et les psychanalystes qui, eux, travaillent avec l'inconscient, avec l'idée que les causes de nos souffrances, qui peuvent être nos croyances erronées, qui peuvent être l'idée que nous avons de nous-mêmes, qui peuvent être des programmes automatiques de pensée ou des façons de se positionner, que ce qui est dans notre inconscient, que parfois c'est notre désir, que nous ignorons, influence, détermine notre vie, et qu'il s'agit donc d'accéder à l'inconscient par la parole. Et bien sûr, l'inconscient, ce sont des pensées, mais ce sont aussi des émotions. Donc c'est très important, les émotions en psychanalyse.
Alors,
allez-y.
Oui, on a abordé un peu cette affaire d'inconscient, enfin cette affaire de peut-être pas d'inconscient, mais d'enfance, de petite enfance, parce que je me souviens très bien lui avoir demandé de savoir quelles étaient les blessures originelles dont je souffrais, en fait, pour souffrir de ce deuil encore, et puis d'avoir eu en quelque sorte une vie sentimentale quand même assez désordonnée, très riche mais désordonnée, au point où en fait je suis seul maintenant, donc voilà, tout ça n'est pas très agréable.
Ce et deuil, c'était celui de votre femme ou de votre conjointe?
Ma conjointe, dont j'avais divorcé, qui est la mère de mes enfants, est partie très jeune à cause d'une tumeur au cerveau.
Oui.
Ça, c'était une première chose. Et ensuite, je vivais avec une autre personne qui était musicienne et qui avait 30 ans de moins que moi et qui m'a quitté au bout de 11 ans. Voilà. Alors peut-être que ces deuils se superposent, je ne sais pas, enfin, il y a peut-être des mélanges. Mais
déjà, pour vous donner une indication, Christian, je vous le dis au passage, c'est qu'en fait, on sait que d'après la théorie sur les traumas, on sait que se produit un premier traumatisme comme le deuil de la mère de vos enfants, c'est forcément un choc dans la façon dont ça s'est passé. Donc c'est un premier traumatisme et l'esprit humain est ainsi fait qu'il surmonte ou semble surmonter le premier traumatisme. Et ça peut être un deuxième traumatisme qui étant relié au premier, soit qu'il est de même nature, soit qu'il a un lien. Donc là, c'est d'évidence, il a un lien, c'est qu'un deuxième traumatisme, peut réactiver le premier et dans l'après-coup, toute la charge émotionnelle non libérée du premier traumatisme peut se réactiver à l'occasion du second. Donc il est possible que dans le fait que vous souffriez tellement de ce deuxième deuil, il y ait aussi toute la charge émotionnelle ou la charge traumatique non guérie du premier qui été réactivé. Ça vous paraît possible ?
Ça me parle beaucoup, absolument. D'autant qu'entre-temps, j'ai perdu ma mère également.
Oui.
Donc, ça fait, je pourrais dire, ça fait trois femmes qui m'étaient très chères.
Trois femmes de votre vie, ben oui.
Les femmes de ma vie, trois femmes de ma vie qui ont disparu. Et j'ai appris il y a un mois aussi la disparition de ma première femme avec qui j'ai eu une belle histoire d'amour. Voilà. Donc, ça fait beaucoup.
Série terrible. Au fond, les femmes que vous avez aimées, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre elles, ont disparu.
Exactement.
Exactement. Oui, c'est pas rien.
Oui, c'est pas rien. Je suis d'accord avec vous.
Oui.
Et donc, voyez-vous, de cette thérapie, j'attendrai un peu d'empathie, de compassion. Enfin, j'aimerais bien qu'ils me prennent dans ses bras et qu'ils me disent c'est pas grave, moi, on va arranger ça, cher ami. Enfin, vous voyez quelque chose que. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je plaisante un peu là, mais.
On peut prendre dans les bras avec des mots aussi.
Voilà, je trouve.
Oui.
Je trouve aussi. Voyez.
Donc, vous dites.
Faire, d'ailleurs.
Écoutez, en tout cas, ça me semble évident que c'est une forme d'amour. C'est pas un amour qui aliène l'autre. On sait bien qu'une personne qui vient nous parler est appelée à repartir libre dans l'existence. C'est même à ça que ça sert, la thérapie. Mais ça empêche pas qu'il y ait un échange d'amour sincère qui, à mon sens, est fondamental pour guérir. Parce qu'on passe par un lien humain sur lequel on peut transférer ces émotions, justement pour pouvoir les revivre et se positionner autrement par rapport à elles. C'est ça le transfert.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et comment pouvoir susciter un transfert si on n'engage pas de son humanité ?
Voilà, je trouve aussi. Je suis très heureux d'entendre ça. En fait, je m'attendais un peu à votre réponse, mais ça me fait du bien d'en parler avec vous. Voyez.
Oui.
Parce que quand je lui parle de ses blessures originelles, de toutes ces blessures, il ne me fait en fait que renvoyer à l'image, sacro-sainte image du complexe d'Édipe et de ce petit garçon qui était amoureux de sa mère et qui était une chose impossible.
Mais oui, sauf que votre mère
en était. C'est plausible, mais ça ne me soigne pas, quoi, en fait.
Oui. Et puis votre mère n'était pas morte quand vous avez connu ces deux premiers deuils.
Non, en effet. Mais nous parlons de lorsque j'étais bébé, enfant, etc. Parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, un drame, dans ma tendre enfance, dans ma jeunesse, dans mon enfance, et je n'arrive pas à savoir quoi. Lui pense que c'est juste cette histoire d'amour impossible. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par derrière, je ne sais pas.
Vous avez, parfois on a l'intuition, de même très vague, vous avez une légère intuition de ce que ça pourrait être le drame en question ?
Pas vraiment. Non, pas vraiment, parce que je vivais dans une famille très unie, de gens, de parents qui s'aimaient beaucoup, qui m'aimaient énormément. Alors peut-être le drame est que je suis fils unique, de parents enfants uniques aussi.
Oui.
Et que je n'ai pas de frères, de sœurs, d'oncles, de tantes, de cousins, de cousines, de nièces, de neveux. Je n'ai absolument rien familialement, sauf deux enfants. Et que je me suis construit un peu tout seul par rapport à mes parents et mes grands-parents.
Et
pour moi, ça, c'est une sorte de drame, en fait.
Oui, justement, quel genre de drame ça ? Comment vous diriez ça ?
Pardon. le petit enfant qui est toujours seul parmi les adultes et qui voit tous ses copains qui ont des frères, des sœurs et qui vont chez leurs cousins et qui vont passer des vacances chez leur oncle et leur tante, qui font des crêpes avec leur nièce et leur cousine. Vous voyez, j'ai une image de la famille complètement idéalisée. De chaleur familiale et que je n'ai pas et que je n'ai jamais eu en fait.
Même avec la mère,
un petit peu.
Oui. Ensuite, vous avez pu créer ça avec la mère de vos deux enfants ?
Oui, j'ai créé ça pendant une quinzaine d'années. Nous avons vécu en famille avec mes deux enfants, avec des amis, beaucoup d'amis qui venaient à la maison, très chaleureux, très la musique, les voyages, les vacances ensemble en couple. Voilà, j'ai connu ça.
Donc au fond, dans votre premier mariage, enfin je l'appelle comme ça, ou compagnonnage.
C'est mon seul en fait.
Oui, votre mariage.
Mais oui. Avant, j'ai eu des aventures qui ont duré longtemps, mais je ne m'étais pas mariée avec les personnes, les femmes.
Est-ce que vous pensez que le fait que dans votre petite enfance, vous soyez fils unique, ça vous a conduit à investir très intensément les liens avec vos parents et les liens d'amour de votre vie, dans la mesure où finalement vos parents étaient tout pour vous ?
Alors, je dirais oui et non.
Oui.
Je n'ai pas créé de lien particulier avec mon père, qui est mort assez jeune. Il avait 52 ans, moi j'en avais 27. Bon, j'étais pas petit, mais enfin. Et je n'ai pas un souvenir de lui très présent dans mon enfance, dans mon éducation. Il est transparent pour moi, on pourrait dire. Et en revanche, ma mère était très présente. Très couvante, etc. Et je me protégeais un peu d'elle, vous voyez, je voulais plutôt la fuir. Donc, en fait, j'étais pas très bien là-dedans. Entre un père que je trouvais transparent et une mère qui me saoulait un peu, en me disant de mettre mon passe-montagne quand j'allais dehors. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui. Le fameux mets ton bonnet.
Mais, ouais, exactement. Donc, ça s'est construit un peu comme ça. Mais en revanche, j'ai compensé, on pourrait dire, en cultivant l'amitié de manière assez remarquable. J'ai beaucoup d'amis et ça, j'ai ouvert là-dessus, vous voyez.
Vous savez, à travers ce que vous dites, j'ai en première impression comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de foncièrement équilibré dans votre manière d'avoir traversé l'enfance, parce que même si, comme vous le dites, c'était pas très gai d'être... Ouais. Mais votre père était transparent, votre mère, vous auriez pu être aspirée par une relation fusionnelle, exclusive. Vous aviez plutôt envie d'éviter les excès et vous vous êtes investi dans le lien amical. Tout ça me paraît parfaitement équilibré.
C'est peut-être oui, c'est pour ça que je tiens encore probablement, d'une certaine manière. Mais bon, la seule chose à laquelle j'ai obéi à ma mère, c'est qu'elle voulait absolument que je devienne musicien, et pianiste notamment, et donc je lui obéis. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est ce lien-là.
Oui, au point de rencontrer une musicienne ensuite.
Voilà.
Oui.
Donc, un musicien a beaucoup de mal à vivre avec une personne qui n'est pas musicienne, et pas forcément qui joue, mais qui entend, qui comprend, qui pleure en écoutant Schubert et Chopin, comme je vous avais écrit dans mon petit message Facebook, que vous avez eu la gentillesse de lire, m'avez-vous dit.
Oui.
Donc cette sensibilité à la musique est évidemment très 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 grande pour moi et très importante et m'empêche de faire des rencontres d'une certaine manière parce
oui,
que je sens
dit.
Ben oui il y a une exigence là-dessus qui m'isole en fait vous voyez.
C'est-à-dire que ce que vous voulez dire par là, vous voulez dire que si la personne n'est pas en parfaite résonance avec vous ou en harmonie, ça vous semblera moins intense que la musique ?
Oui. Enfin, j'ai besoin effectivement je l'ai vécu, notamment avec cette dernière relation dont je vous parle et dont ce deuil est si difficile, avec une musicienne qui était une de mes étudiantes d'ailleurs, et à qui j'ai appris énormément de choses, et nous étions en symbiose musicale, on jouait ensemble. Donc, c'était la première fois de ma vie que ça arrivait, d'ailleurs. Et là, j'ai eu une dizaine d'années de bonheur absolu avec ça, vous voyez.
Christian, si j'entends bien, ce que vous dites, c'est qu'avec la mère de vos enfants, donc votre femme, vous avez réalisé un idéal familial.
Exactement. Et
vous avez perdu cet idéal avec sa disparition.
Exactement.
Et avec votre deuxième compagne, vous avez réalisé une autre forme d'idéal qui est l'idéal autour de la musique. C'est l'osmose dans la musique.
Voilà. Et maintenant, il n'y a plus rien.
Et une deuxième fois, vous avez perdu cet idéal.
Voilà. Exactement. Oui, c'est très bien vu. C'est très bien vu. C'est la paire de deux idéaux.
Ben
absolument.
Oui. C'est les deux idéaux qui soutenaient votre vie. Enfin,
exactement.
Les deux idéaux d'ailleurs issus de votre enfance.
Exactement. Ah, mais bravo. Mais oui, c'est exactement ça.
Oui.
Ah, vous avez tout compris. C'est merveilleux. Mais oui, c'est ça.
Alors, imaginez la détresse psychique, la détresse morale. Lié à la perte d'un idéal.
Mais oui. Et
de deux, forcément, ça se met en série. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours frappée sur l'esprit humain, c'est de prendre conscience du fait que la perte d'un idéal, ça pouvait être une des expériences les plus violentes qui soient. Ça Freud le dit, hein, dans Deuil et Mélancolie. Et parce qu'un deuil, c'est pas seulement la perte d'une personne aimée, c'est aussi un deuil terrible, c'est la perte d'un idéal. Et parfois, ça se conjugue, puisque vous, c'est un idéal que vous avez perdu en la personne aimée. Et je me souviens de ce que j'ai lu à propos de Gide, l'écrivain, qui toute sa vie avait été porté par l'idéal du communisme, et il est allé en URSS à l'époque, il s'est rendu compte de ce qu'était le stalinisme, et il a pris conscience à quel point c'était éloigné de son idéal communiste. Quelque chose s'est effondré, et chez Gide, il y a eu un trou noir de dépression après ça, parce que la perte d'un idéal, c'est une des choses les plus violentes pour l'esprit humain, pour l'âme humaine même, on peut dire, hein, parce qu'on est porté par un idéal.
Je peux témoigner, effectivement.
Mais oui.
Et ceci dont je vous parle ne me parle pas du tout de ça, vous voyez. Au contraire, il veut me ramener juste au réel.
Vous voyez. En fait, vous savez, peut-être que... le réel, oui, enfin... D'accord, réel,
oui.
on n'a pas d'autre choix que d'en prendre acte quand il se produit. Mais tous les réels ne s'équivalent pas. Et là, en fait, il me semble que essayer de ramener votre double deuil à une mesure commune, d'abord, c'est pas honorer vos sentiments et c'est pas honorer la vérité, parce que ce sont deux histoires très singulières que vous avez vécues, au sens justement où elles incarnaient l'une et l'autre un des deux grands idéaux de votre vie.
Oui, 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 exactement. Oui, parce qu'il me dit toujours que je manque d'inadapté. Je suis un peu inadapté au réel, qu'il faut concevoir que les choses sont terminées, que la vie est impermanente, que...
Ça se voit que vous avez compris.
Oui, j'ai compris. J'en ai rempli des pages, hein, vous inquiétez pas.
Mais
bon, on tourne en rond, quoi.
C'est ça.
On tourne en rond. Vous voyez, en un quart d'heure, vous me dites exactement les choses. Donc, c'est ça, quoi.
Il me semble, Christian, que pour vous, la dimension de l'idéal, elle est fondamentale dans votre vie, que vous en avez besoin pour vivre, pour respirer. Pour vous, le lien probablement qui vous conviendra, qui vous conviendrait, si vous aimez, je ne sais pas si vous souhaitez faire une autre rencontre.
Mais bien sûr, je ne souhaite que ça. Mais en même temps, j'ai 70 ans et j'ai très peur. Voyez-vous, j'ai très peur que ce soit terminé, en fait, tout ça. J'ai très peur de ça.
Oui, mais je crois qu'il n'y a rien qu'on puisse craindre plus dans une vie humaine que de vivre avec une flamme éteinte.
Exactement.
Peut-être vaut-il mieux prendre le risque
d'aller... De la rallumer.
Parce que finalement, l'état dans lequel nous laisse le deuil, c'est la flamme éteinte, c'est le désir qui s'éclipse, qui nous déserte. Oui. Et une vie sans désir, c'est pas une vie digne de ce nom. On le sait quand on essaie de se lever le matin, quand on est porté par rien. Alors heureusement, vous avez toujours l'idéal de la musique qui, lui, ne dépend de personne.
Et je la partage et je l'enseigne encore, Dieu merci, je donne des cours de piano et à Paris et je suis très content comme ça de rencontrer beaucoup de monde. Il y a une dernière petite parenthèse, si vous avez encore 3 minutes.
Oui, bien sûr.
Ces deux femmes dont vous me dites effectivement qu'elles représentent mes idéaux avaient une très grande différence d'âge avec moi, notamment la deuxième, qui avait 30 ans de différence, et la mère de mes enfants, qui avait une vingtaine d'années de différence.
Oui.
Et ce schéma me convenait par-dessus tout.
Oui.
Ce serait un autre sujet à aborder.
Oui.
Mais pourquoi ai-je eu tant besoin et tant de... c'est un troisième idéal peut-être de vivre avec une femme beaucoup plus jeune.
Qu'est-ce que ça signifie pour vous, une femme plus jeune?
C'est compliqué. C'est
peut-être vous le savez, mais c'est personnel.
C'est un peu personnel. Oui. C'est peut-être aussi oui, c'est personnel. C'est difficile à dire. On va dire que c'est difficile à dire.
Oui.
C'est peut-être l'idée de retarder ma propre vieillesse aussi, hein, et ma mort un jour ou l'autre. Mais c'est extrêmement gratifiant pour un homme d'être avec une femme beaucoup plus jeune. Enfin, moi, je le vis comme tel.
En tout cas, la jeunesse vous porte. La jeunesse,
énormément, intensément.
Vous porte.
Bah, intensément.
Oui, mais bon, je pense qu'il n'y a rien de critiquable dans cette configuration du lien, puisque tout le monde peut choisir.
Oui, oui. Je sais.
Oui.
Mais ça ne conduit pas forcément toujours à des grandes réussites. Mais bon.
Je sais pas, parce que là, finalement, on peut imaginer, enfin, vous savez, chaque fois qu'il s'agit d'amour humain, on est loin des clichés, parce que finalement, un cliché aurait pu dire, oui, avec une différence d'âge de 30 ans, c'est votre compagne qui va avoir à vivre le chagrin de la perte, et puis, la vie est imprévisible, et c'est pas
et
comme ça
fait,
que ça se passe.
Et en fait, c'est moi qui vis son départ.
Bah oui. Donc, que faire des normes sur l'âge et vous aimez la jeunesse, autant vous en nourrir, c'est très bien.
J'aime la jeunesse et la musique.
Ben oui.
C'est vrai.
Ben oui. Qui pourrait trouver à redire?
Oui, finalement, c'est pas si mal que ça, alors.
Bien sûr. Et je pense que vous savez, de le savoir, ça vous évite, ça vous permet de faire cette démarche vraiment aimante envers vous-même, de vous dire oui, moi je suis comme ça, c'est ça qui me fait vibrer. Et à propos de musique, c'est vraiment sans doute que la question de vibration est adaptée.
Très important.
C'est ça qui vous fait vibrer, très bien. Donc autant adresser cette demande au monde et voir ce qui vous répond.
Eh bien voilà, bah je déjà RTL l'a entendu.
Déjà RTL a entendu, voilà. Mais oui.
Oui.
Et puis peut-être que vous aussi, le fait de décider de parler de ça, pas seulement dans un cabinet de psy, mais à la radio, c'est un acte.
Oui.
Donc qui sait ce que l'on met derrière un acte?
Je ne sais pas. Mais effectivement, j'avais très envie de vous parler à vous, Sabine, parce que j'entends vos émissions depuis que vous êtes là. Et je suis scotché, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup des auditeurs, j'ai vu tous les témoignages qui vous concernaient. Voilà, vous faites un travail absolument extraordinaire et j'avais envie de ne pas rater cette occasion.
Ah, j'en suis très heureuse, Christian, vraiment.
Voilà.
Et par rapport à votre question, donc je crois que vous allez sentir ce que vous devez faire par rapport à votre psychiatre, psychanalyste, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'en toute chose, vous gardiez votre liberté. Après tout, vous êtes engagé dans aucun processus.
Absolument, absolument. J'ai déjà réfléchi peut-être à trouver une psychothérapeute différente. Enfin, trouver quelque chose. J'y réfléchis, vous voyez.
Oui. Vous savez, on n'est même pas obligé d'arrêter avec la personne avec qui on est en thérapie. Parfois, ça se pratique de voir quelqu'un d'autre pour faire le point sur son travail et voir simplement où ça vous mène.
Mmh, mmh.
Et puis ensuite, bien les sûr. Choses se font naturellement.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà.
Écoutez, merci infiniment.
Avec grand plaisir, Christian.
Je vais passer avec vous. Très éclairant, forcément, toujours.
Mais écoutez, j'en suis vraiment heureuse. Je vous souhaite une belle continuation. Je vous souhaite les belles surprises de l'existence. Et puis,
oui.
Ce dont je ne doute pas, parce que, en général, notre désir déclenche les réponses du monde, enfin, pour le dire comme ça.
Il paraît, oui. Mais il y a par moments, ça se met en mode pause, peut-être, quand même. Mais bon.
Oui, mais c'est toujours là, à l'état de potentiel. Et ça, vous savez, je reçois tous les jours au cabinet. C'est extraordinaire ce qu'on voit dans les vies humaines.
Oui.
Après, on peut pas être désespéré quand on voit des choses comme ça.
J'imagine bien. Merci infiniment pour cette écoute. Merci. Et puis, je vous écouterai encore les quelques jours qui
viennent. Alors, merci à vous, Christian. À bientôt.
Moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir.